Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Nous accueillons aujourd'hui Agnès Gatley qui s'occupe d'un dispositif de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles qui s'appelle Mon Corps et qui a recours à la danse et à tout un tas d'outils dont elle va nous parler. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Je précise que je suis accompagnée de Victoria en stage à la rédaction.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà, un peu plus en détail, mais on reviendra après davantage dessus, ce qu'est Mon Corps ?
Alors, Mon Corps, donc, c'est un dispositif de soutien aux victimes d'agressions sexuelles et spécifiquement aux femmes. En fait, il y a des temps qui sont en mixité, il y a des temps qui sont non mixité. C'est un dispositif qui a trois volets. Accompagnement thérapeutique gratuit spécialisé en réappropriation corporelle pour les victimes d'agressions sexuelles, performance en espace public et réappropriation des femmes de l'espace public pour mettre en visibilité les parcours de réappropriation des victimes. Et le dernier volet, c'est événements culturels et discussions en mixité, où là, on propose, on essaie de mettre en visibilité des artistes qui traitent des sujets des violences sexistes et sexuelles et qui servent d'appui à des discussions en mixité.
Qui porte le dispositif Mon Corps et d'où vient cette idée, ce cheminement ?
Alors, il y a deux associations. Il y a Danser sur vos murs, sur la partie culturelle, et il y a Soma, sur la partie accompagnement thérapeutique.
Danser sur vos murs, on est sur un collectif transdisciplinaire d'art social ?
Oui, c'est ça, exactement. On est affilié aux Fédérations des Arts de Rue, mais on utilise en fait l'art pour faire du social ou de l'écologie. Voilà, depuis 2018.
Et vous êtes combien ?
Je dirais à peu près 45 bénévoles, dizaines d'artistes et en adhérent, je pense qu'on est vers les 50 adhérents annuels.
Et vous, votre place au sein de Danser sur vos murs ?
Bah, moi, je suis artiste pluridisciplinaire. Je me suis spécialisée en création collective et en art social. Et en fait, j'ai cofondé cette compagnie avec des habitants de la ville, parce que ça vient d'un projet qui s'appelait « J'irai danser sur vos murs », où on interrogeait les gens sur leur relation aux murs dans l'espace public. On mettait en place des performances qui retraçaient leurs histoires. On les filmait et on les projetait la nuit sur les façades d'immeubles en international, donc en France et à l'étranger. Ça, quand je me suis installée à Nantes en artiste indépendante en art visuel, j'ai mis des petites affichettes pour rencontrer les habitants pour leur proposer ça. Ça a vraiment généré un mouvement qui était très fort. Du coup, j'ai proposé qu'on co-fonde une association qui permettrait de développer ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, y a des gens qui venaient à nous dans l'espace public et puis il y a des gens qu'on ne rencontre pas. Donc, on a commencé à aller rencontrer ceux qui ne sont pas là, en EHPAD, en hôpital, en prison. Donc, l'association Danser sur vos murs est née comme ça. Et elle s'est spécialisée en accessibilité culturelle et inclusion sociale par la pratique artistique.
Donc, Mon Corps, c'est la rencontre entre Danser sur vos murs et Soma, vous le disiez. Soma, ouais. On est sur l'accompagnement thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association ?
Oui, alors Soma, elle est née en 2023. Et en fait, c'est sur l'accessibilité thérapeutique. Parce que aussi, alors la thérapie, c'est très large. Hein. Il y a un milliard de propositions. Il y a du shiatsu, du chinetsang, de la psychologie, de l'intégration émotionnelle. C'est des propositions qui sont extrêmement utiles, intéressantes, efficaces, diplômées, certifiées. Et pourtant, vu qu'elles ne sont pas remboursées par la Sécu, eh ben, il y a toute une partie de la population qui n'y a pas accès ou très peu, alors que c'est souvent aussi des personnes qui sont dans des difficultés qui en auraient vraiment particulièrement besoin.
Pourquoi est-ce que ces deux associations se sont fédérées pour proposer un projet aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ? Pourquoi avoir choisi de vous engager sur ce thème ?
Et en fait, donc, on cohabitait dans un espace et on était touchée par les mêmes valeurs, parce que du coup, elle connaissait déjà, elle faisait partie de Danser sur vos murs en tant que bénévole. Et en fait, quand en 2020, ça a été la grosse merde totale, on a monté un festival qui s'appelait le festival Art et Sens, où là, on proposait de l'art et du bien-être, et dont tout l'argent allait pour faire des propositions d'accessibilité aux soins et à la culture pour les personnes en situation de grande précarité. En l'occurrence, principalement des personnes de la rue et des migrants. Ça a donné suite à un dispositif qui s'appelait L'Hiver Ensemble, qui a duré 3 ans, où on faisait des spectacles pour les distributions alimentaires et on faisait aussi des propositions de soins pour des personnes en grande précarité. À côté, il y avait des propositions féministes, mais ce n'était pas lié. Donc, il y a eu un podcast qui s'est monté qui s'appelle Sur la route d'une femme libre, où il y a d'ailleurs un épisode où c'est Sonia qui parle de son parcours vis-à-vis de la migration parce qu'elle est colombienne et de son lien au sexisme en Colombie. Et on a décidé en 2021 de monter un projet qui lie féminisme, art et bien-être. Mais ça nous a pris du temps parce que c'est tellement difficile ce sujet. C'est tellement véhiculant qu'il fallait qu'on soit bien en place et qu'on définisse une charte de protection des thérapeutes et de protection des patientes ou des personnes qui vont suivre en tout cas cette proposition.
Déjà, il y a quand même un angle qui s'est resserré parce que le croisement entre féminisme, art, bien-être, mais là vous avez choisi d'aller, de rester sur la thématique des violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ?
Pourquoi nous trois, on est touchés par, on a été touchés par ça. Alors, c'est pas violence sexiste et sexuelle, c'est agression sexuelle. Je le spécifie parce que c'est large. En fait, on est tout le temps violence sexiste et sexuelle, mais il y a un milliard de trucs à l'intérieur. Et en fait, dans ce milliard de trucs, les fois, le fait de tout mettre dans la même boîte, tout n'a pas les mêmes conséquences, on va dire. Les agressions sexuelles, du coup, on avait développé, ayant été touchés toutes les trois par le sujet, 3 technicités très différentes pour nous auto-guérir, on va dire. Donc d'abord, on a décidé de réfléchir à un dispositif d'accompagnement à 3 qu'on a d'abord traversé nous-mêmes, qu'on a réajusté nous-mêmes avant de prendre un premier groupe. Quand il y a eu les assises de lutte contre les violences sexistes en 2022, là, fin 2022, ça nous a permis de faire une proposition et d'être en visibilité pour trouver des personnes qui acceptent d'être accompagnées. Donc là, ça a été le premier accompagnement qu'on a fait pour d'autres que nous, sachant qu'on avait cette charte où on savait que nous, il fallait au moins qu'on l'ait vécu 2 fois avant de le proposer, et qu'on le revive à chaque fois avant d'accompagner un groupe. Et là, on s'est rendu compte de l'ampleur du sujet. En fait, on n'était pas nous-mêmes, on n'avait pas en pleine conscience le fait qu'aucun soin n'est actuellement mis à disposition de manière institutionnalisée et spécialisée pour les victimes d'agressions sexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants ou n'importe qui.
Il y en a en addictologie, par exemple, pour les problématiques d'addiction.
Ouais, il y a aussi le truc, si tu as un accident de voiture, ton assurance ou certains types de trucs, ton assurance, elle peut te mettre à disposition des soins ou des choses. Tu es victime d'agressions sexuelles, ton assurance, elle fait rien, il n'y a que dalle, les gens sont seuls, en fait, après. Donc, évidemment qu'il y a des associations, et heureusement, qui œuvrent depuis très longtemps. Mais en fait, est-ce que ça a été fédéré? Est-ce que ça a été visibilisé? Est-ce que ça a été... est-ce que c'est rentré dans le champ scientifique? Quelle maladie physique et physiologique découle des agressions sexuelles? Est-ce qu'il y a des études qui sont mises en place? Parce que des chiffres, c'est concret. En fait, vu que c'est sociétalement... Ça rentre dans les consciences que depuis MeToo, quoi. Ce qui n'est pas très vieux. En fait, ça ne s'est pas encore mis en place. Voilà. Et en fait, parce que déjà, il fallait accepter une problématique sociale avant de mettre en place des soins. Juste en parler, déjà, juste accepter que ça existe déjà et que c'est énorme. Il n'y a aucune personne sur cette planète qui n'a pas une mère, une sœur, une grand-mère, une pote qui a été touchée. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas soi, c'est quelqu'un d'autre. C'est une question qu'on nous pose souvent. À partir de quand on est victime d'agression sexuelle? À partir du moment où il n'y a pas de respect du consentement. Il n'y a pas forcément besoin d'un contact physique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir été violé pour être victime d'agression sexuelle. Et même ça, de conscientiser ça, on n'en est pas encore là. MeToo, c'est viol. Donc quand on cherche les chiffres, on a très rapidement des chiffres de viol et tentatives de viol. Pour les plotages, les obligations, enfin, mais les milliards de possibilités d'agressions qu'il y a, qui sont extrêmement violentes, traumatisantes, qui vont générer tout un tas de problèmes psychiques et physiques, c'est encore en prise de conscience progressive. Donc du coup, on a vraiment la psychoéducation, la médiation. C'est pour ça qu'en fait, l'accompagnement thérapeutique, c'est un tiers de notre proposition. Et il y a deux tiers qui est voué aux conversations et aux propositions, enfin aux performances dans l'espace public, parce qu'il y a un vrai besoin de médiation sur ce sujet-là.
Vous parliez de soins tout à l'heure. Vous utilisez plutôt la danse ou la réappropriation du corps plutôt que les mots, ou c'est un choix assez particulier, ou les deux se lient en fait dans votre projet, dans le projet Mon Corps?
Alors, dans le dispositif, on est trois thérapeutes. Donc la psy, elle va utiliser les mots. Le shiatsu, donc c'est des points de pression. Donc c'est en individuel, c'est des points de pression qui vont aider à la circulation. Et moi, du coup, ça va être la danse, le mouvement et la musique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps de parole, mais moi, je ne sais pas ce que les femmes ont vécu. Jamais. Je ne leur pose jamais la question. Si elles décident de me raconter à un moment donné, elles peuvent, mais en fait, en vrai, souvent, ça ne s'y prête pas. Souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, ce que je propose, c'est des outils, parce que vu qu'on voit les femmes très peu de temps dans le réel, ou ce qu'on propose dans le virtuel, on propose des outils pour que la personne, elle puisse avoir accès à elle-même. Et donc du coup, pour ça, moi, je propose la danse-méditation. Là, je vais bientôt mettre en ligne un truc qu'on peut écouter, comme il y a de la méditation en ligne. Bah, là, il y a ça. Enfin, ça sera de la danse, c'est de la danse-méditation en ligne. Donc on peut l'écouter et le faire chez soi.
Danse-méditation, c'est calmer le mental, revenir dans le corps?
C'est passer par le mouvement et le sensoriel pour rétablir le dialogue avec son corps. En fait, là, la tête est constamment en train de prendre des décisions, de juger, de faire des trucs, mais le corps est jamais force de proposition, ou très rarement. Et du coup, comment on rééquilibre? Bah, déjà, il faut l'entendre, donc rentrer dans le sensoriel. C'est même pas le sens, c'est le sensoriel, quoi. Donc c'est pour ça. Le mouvement, il aide, parce qu'en fait, on sent son poids. C'est plus facile en mouvement de sentir son corps qu'en immobilité, en fait. Donc du coup, c'est pour ça la danse-méditation. Et après, dans ce que je propose en réel, mais pas en virtuel pour l'instant, c'est la libération par la danse. Et là, donc il y a une playlist qui existe sur Spotify qui s'appelle Mon Corps, avec que des artistes femmes, qui proposent une diversité d'énergie, diversité de vraiment, c'est complètement éclectique. Et en fait, c'est comment par la musique et par le mouvement, on va rétablir sa diversité intérieure. Si quelqu'un a toujours la même corporalité, en vrai, c'est chelou. Normalement, on a plein de corporalités à disposition. On peut être souple, on peut être rigide, on peut être saccadé, on peut être lent, on peut être grand, on peut être petit. Et quand c'est pas fluide, ça veut dire que y a des barrages, il y a des blocages. Et comment, en fait, par la musique et le mouvement, on va réaccueillir cette diversité là, quoi.
Diversité aussi, juste avant, en off, vous nous disiez, Agnès Gatelet, que souvent les femmes qui ont connu des agressions sexistes et sexuelles avaient des attitudes ou une volonté de surcontrôle d'elles-mêmes, en tout cas des séquelles un peu spécifiques qui vont complètement faire écho à cette recherche de finesse et de diversité. C'est que souvent, pour tenir, on va oublier une partie de soi-même.
Alors, en fait, ça, c'est lié au trauma. Je ne vais pas parler de violence sexiste parce que c'est trop large. D'accord ? Moi, je suis spécialisée sur agression sexuelle, violence sexuelle. Je le redis et je le redis parce que c'est vraiment pas pareil et je me sens pas... Je sens qu'il y a des terrains qui sont pas les miens et je galère déjà avec celui-là, avec cette précision-là. Et en fait, sur l'agression sexuelle, c'est un trauma. C'est comme ça, en fait. C'est pas négociable. C'est blanc ou c'est jaune? Non, c'est un trauma. C'est comme ça. Le trauma... je suis en train de faire de la psychoéducation, sachant que je suis pas psy. Donc attention, ça va passer par ma verbalisation. Très grosse vulgarisation. Hein. Quand on vit un trauma, il y a quoi? Il y a la tête qui va... Donc il y a une espèce de montée cérébrale de protection qui va se mettre en place en disant « Ok, je viens de vivre un truc super trash, là. Je ne veux plus jamais revivre ça. » Donc c'est un procédé, un système de défense que tout le monde a qui fait qu'on va monter au cerveau en disant genre « Clac! Ok, maintenant, tac, tu check, quoi. » Enfin, ça doit plus jamais. Et d'ailleurs, je vais enregistrer ça comme information parce que potentiellement, c'est ça qui t'a mis dans la merde. Donc, je vais l'enregistrer bien, bien fort pour que si ça revient, tu comprendras bien qu'il ne faut pas y aller. Sauf qu'en fait, en plus que notre corps enregistre, ce n'est pas forcément des trucs utiles. Genre, ça peut être la météo. Et donc, du coup, en plus, donc déjà, il y a deux choses. Il y a le fait de monter au cérébral et le fait qu'on va cristalliser des choses qui se sont passées au moment de l'événement traumatique et qui peuvent faire des réminiscences cheloues. Donc, par exemple, je ne sais pas, à chaque fois que j'ai... que je vois sur mon horloge qu'il était l'heure, à chaque fois qu'il y a un type d'humidité. Donc, j'ai enregistré ça comme information que j'ai associée au trauma. Donc, ça te met en état de vigilance rouge, quoi. Ça ferme les portes. Il y a la sidération psychique. Donc, OK, t'es en train de vivre un truc super trash. Je vais pas te mettre en pleine conscience. Ce serait horrible. Donc, on va jarter une partie de toi-même. Hein, comme ça, on la protège. Et tu reviendras quand ça sera la paix. Sauf que comment tu reviens, en fait ? Enfin, tu vois, donc il y a une partie de nous qui est mise à l'écart, et après, elle reste dehors, en fait. Elle revient pas toute seule. Ça marche pas comme ça, en fait. On met juste à l'écart. Pouf, on pousse. Donc il y a un dernier truc, c'est l'éclatement de la personnalité. Mais en gros, y a la guerrière qui va arriver, qui n'est pas forcément une guerrière combattante, qui peut être une guerrière par l'esquive, qui va faire en sorte que ça n'arrive plus. D'accord, ça va arriver. La guerrière ou le guerrier, suivant le genre de la personne qui est touchée. Et donc, du coup, moi, j'ai une guerrière combative, par exemple. Ma guerrière, elle va dire « Allez, on va faire ça, tchouk, on va... » C'est une guerrière très, très active, quoi. Très contrôlante, très puissante, etc. Elle n'est pas dans le plair. Elle n'est pas sympa. C'est pas son taf à elle. Elle est là pour protéger. Voilà. Il y en a qui ont des guerrières d'esquive. C'est pas des guerrières, sont pas physiquement combatives. Elles vont, c'est plutôt la fuite, quoi, on va dire. Voilà. Comme si il y a des animaux qui vont rugir, avoir des griffes, et puis il y en a d'autres qui vont se barrer, tu vois. Mais en tout cas, la guerrière, elle est là.
Peut-être faire le lien avec la manière dont la danse vient justement remettre dans le corps, en fait, dont vous travaillez, et c'est ce qui fait aussi l'originalité de mon corps, de ce que vous proposez comme accompagnement avec ça, c'est de travailler le corporel, l'émotionnel. Comment est-ce que à travers le mouvement, on peut retrouver de la souplesse et de la diversité après ces traumas?
Alors déjà, là, on est à fond en train de parler de ce que je propose en libération par la danse. Mais ça reste un tiers de ce que je propose. Donc je défocalise un peu l'attention dessus, ou si je me permets, donc je récupère la question, mais je la décale un petit peu. Parce qu'on propose des laboratoires chorégraphiques et on propose à toutes les femmes, tous les corps, toutes les couleurs, tous les âges, toutes les formes, de participer au laboratoire et aux performances dans l'espace public. Pourquoi je propose ça ? La réappropriation de l'espace public, c'est un truc de ouf. Quand tu le vis, t'es avec plein de meufs différentes, etc., tu te rends compte à quel point ça n'arrive jamais. En fait, au moment où tu le vis, par contraste, tu te dis genre « Ah, wow ! Ah, putain, ça donne ça !» Bon, ceux qui ont déjà été à des manifs où il n'y a que des meufs, elles l'ont senti. Après, il y a aussi un truc que je trouve qui est une qualité extraordinaire qu'on trouve souvent chez les femmes et surtout celles qui sont dans une capacité de sororité, c'est une capacité de compassion et de soutien. Et le retour de la médaille qui va des fois avec ce truc-là, la meuf, elle donne plus aux autres qu'à elle-même. Donc c'est un peu genre, je suis carrément OK pour donner, je suis carrément OK pour soutenir. Mais je suis régulièrement mise en difficulté parce que, par contre, moi, recevoir, prends du temps pour moi, pourtant, à part tout ça, j'en prends du temps pour toi. Oui, mais pourquoi faire ? Enfin, je vais faire quoi, en fait, avec moi ? Enfin, tu vois, ça veut dire quoi, ce truc ? C'est pas très évident. Et en fait, on a le droit aussi de passer par l'autre pour revenir à soi. Et en fait, c'est ça que je propose. Pourquoi ça serait mauvais ? En fait, c'est juste que c'est pas usuel, mais en fait, tu peux le faire. En fait, tu viens dans l'espace public pour soutenir les femmes victimes d'agressions sexuelles, mais tu reçois. Parce qu'en fait, on se bénit les unes les autres. On se souhaite le meilleur. On se souhaite de pas juste être dans la survivance. On se souhaite de pas juste esquiver. On se souhaite d'être dans le plein pouvoir, la puissance, les possibles, qu'il n'y ait pas, tout le temps des interdictions, que tu n'aies plus à te poser la question de comment tu te fringues pour sortir. Que même ça, c'est tellement une violence ordinaire quand on parle de réappropriation de l'espace public, c'est qu'en fait, dans l'espace public, qu'il n'y ait plus de réflexion sur comment tu vas te représenter pour une femme dans l'espace public, c'est un truc de ouf. Hein. Avant, j'avais organisé des performances pour représenter la diversité des femmes dans l'espace public, parce que quand tu regardes les visuels, c'est qu'une meuf jeune, blanche, mince, valide, sans tatouage, sans poils, super sexy. Ou alors, c'est parce que si elle est vieille, c'est parce que c'est pour un truc pour entendre, parce qu'elle est sourde. Si c'est une femme de couleur, c'est souvent associé soit à un truc de ménage, tu vois, ou des trucs super racistes. Enfin, c'est un truc de malade. C'est impressionnant. Le fait de se réapproprier l'espace public par la danse et le mouvement, en fait, quand tu le vis en vrai, c'est hyper évident. Et là, d'expliquer dans le concept pourquoi, pour plus être dans le concept, pour être dans la vie. C'est la vie. La danse, c'est la vie maintenant.
Justement, vous parlez de danse. Le 29 juin aura lieu la troisième représentation de Mon Corps, à 19h15, je crois, place Gralin. Justement, on disait tout à l'heure qu'il y avait une forme de normalisation de la violence, surtout dans l'espace public. Et cette performance, elle a lieu dans un espace public qui est quand même assez fréquenté. Est-ce que par cette performance, vous avez espoir de réapproprier l'espace public et que donner la place aux femmes dans l'espace public ?
Alors, déjà, ce n'est pas une représentation, c'est une performance. Pourquoi on dit performance ? Parce que, si tu veux avoir le cul sur ta chaise à regarder le truc, c'est possible. Mais ce n'est pas le but. C'est un appel. Ce jour-là, on refait un appel. C'est aussi un appel, tu veux soutenir et tu n'es pas femme cisgenre, mais c'est OK. Il y a un moment donné à la fin, on fera un cercle non mixte et un cercle mixte. Donc, on proposera aussi à toute personne qui veut soutenir de venir. Donc, déjà, rien que le fait de dire ça, c'est important parce que ce n'est pas juste quelque chose qui se regarde. Après, c'est aussi quelque chose qui est un élément de médiation explicatif. Ça représente le parcours de réappropriation corporelle. C'est issu des histoires de réappropriation corporelle des victimes d'agressions sexuelles, donc en l'occurrence des femmes. Et c'est représenté par des femmes bénévoles touchées ou non par le sujet. Ce n'est pas forcément parce que tu y vas que tu as été touchée par le sujet. Pourquoi place Gralin ? La dernière fois, on était à Cours-Saint-Pierre. L'avant-dernière fois, on était à la Tour de Bretagne. Je me suis posé la question. Il y a un truc où on essaye aussi d'avoir plus de visibilité, déjà. Donc, c'est un espace facilement accessible, visible, large. Il n'y a pas de voiture. Donc, il y a des trucs qui sont très pragmatiques, hein, tu vois, là-dessus. Pour permettre ça, pour moi, c'est hyper important que les femmes se sentent en sécurité et protégées. Donc, on fait toute une zone. On appelle aussi des participantes. Si tu viens habillée en blanc, t'es OK pour performer. Si tu viens habillée en noir, t'es OK pour aider. Donc, on fait tout un cercle. C'est très protecteur. Et ça, ça le permet. C'est pas complètement circulaire, cette place, mais c'est pas loin. Voilà.
Par exemple, là, on est en train de discuter, on est dans le quartier de Bellevue, où la place des femmes dans l'espace public est encore plus codifiée, peut-être qu'ailleurs. Hein. Mmh. En tout cas, les femmes qui traversent l'espace public ici, c'est pour le traverser, alors qu'il y a des hommes qui peuvent s'attarder. Est-ce que ça pourrait avoir du sens pour vous aussi de faire des performances et d'intervenir dans différents types d'espaces, et pas forcément que du centre-ville, dans les quartiers, en zone rurale, dans le...
Pourquoi les manifs, on les fait dans le centre-ville ? Pour être vus. C'est pour ça. Nous, on est tout le temps dans le quartier, on est tout le temps dans les parcs. Nous, il n'y a aucun problème. Vraiment, quand on regarde, si vous avez la curiosité d'aller voir ce que fait l'asso, pour moi, on est mobile, en fait. On est nomade dans une ville, on est nomade dans une région. On reste nomade là-dedans. C'est pareil, on va jouer à l'EHPAD, on va jouer en prison. Et on ne va pas jouer aussi dans une ascendance. C'est-à-dire, je ne joue pas pour toi sans prendre en considération ton consentement. Tu vois, ça aussi, c'est important de se dire « Ah, tiens, dans la réflexion, est-ce que tu veux recevoir ce que je vais te donner ?» En fait, tu as le droit de ne pas vouloir recevoir. Si tu veux recevoir, il y a aussi des médiatrices qui sont là, qui peuvent t'expliquer, te donner des clés. Si tu veux passer ton chemin, tu passes ton chemin. C'est aussi accepter de ne pas ligoter à une chaise dans une pièce fermée quelqu'un en disant « Regarde-moi, je suis un mètre au-dessus de toi et je vais te dire c'est quoi ?»
Quel soutien, parce que vous disiez avoir de la visibilité, avoir du soutien. Vous êtes sur la deuxième session de Mon Corps. Là, ça va être la troisième performance dans l'espace public.
Oui.
Quel soutien est-ce que vous avez eu pour pouvoir lancer et mener tout ça ?
Alors déjà, on a fait un crowdfunding janvier-février, sans lequel on n'aurait pas pu débuter. Et on a eu 8000 euros. On est tout le temps en galère de thunes, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de nourrir la précarité. Les thérapeutes, si on ne les paye pas, elles ne pourront pas être là tout le temps. Hein. c'est pas possible. Moi, c'est pareil. Si je me paye jamais, c'est compliqué à un moment donné d'être là tous les jours sans argent, sauf si j'étais héritière ou je sais pas quoi, mais c'est pas le cas. Donc il y a un appel à dons qui est constant. Donc déjà, il y a ce soutien permanent. Voilà. Ça peut être aussi sur les structures institutionnelles. Là, on a des soutiens un petit peu par la ville. Là, il y a l'égalité qui nous a soutenus. On essaie d'avoir des soutiens par la région, par le département. C'est en process. Hein. On fait beaucoup de choses en bénévolat pour l'instant. Mais ça veut dire aussi, regardez ce qu'on fait, ça envoie du pâté. Parce que sous prétexte qu'on fait de l'art social, il n'y a pas de reconnaissance. Hein. Quand tu fais de l'art social, c'est hyper dévalorisé. Et en fait, quand tu vois les performances, tu dis « Ah, mais c'est beau, en fait, c'est puissant. » Mais ouais. Mais attends, tu peux traiter d'un vrai sujet, que ça soit extrêmement esthétique, que ça soit extrêmement poignant, et qu'en fait, on reprenne la première fonction de l'art qui est d'être libre, que ça soit au service du peuple. L'art, c'est au service du peuple, normalement. C'est cool qu'il y ait de la diversité. En fait, heureusement qu'il y a des propositions d'opéra, de pièces super imprégnées de patriarcat qui seront diffusées sur l'espace public. Mais pourquoi pas, et tant mieux. Enfin, je m'en fous, en vrai. Mais qu'on ait la diversité des propositions. Et en fait, c'est super chaud d'avoir la diversité des propositions. Non, il n'y a pas, pour l'instant, de visibilité d'une diversité des propositions. Est-ce que, par hasard, elle va tomber sur nous ? Bah, j'espère. J'espère que le hasard fera son taf. J'espère que... Parce que ça touche toutes les classes sociales, en fait.
Vous parliez de visibilité d'artistes. Il y en a une qui fait partie de votre playlist, celle de Mon Corps, qu'on peut retrouver sur Spotify, ouais. Avec cette diversité. C'est Chica Belleville Sola. Avant qu'on l'écoute, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Pourquoi ? Est-ce que c'est elle que vous avez choisi de faire écouter ?
Ben déjà, quand on parle de sororité, quand on a lancé le crowdfunding, en fait, donc du coup, on n'a pas de rond. Donc, on est une quatorzaine hein, de meufs à vouloir faire le truc. Et en fait, on sait qu'il faut mettre une vidéo à dispo pour que les gens ils se rendent compte. Donc, on avait filmé la performance de novembre. Mais si tu prends des musiques de droit d'auteur, souvent, tu te retrouves avec une personne qui a touché sur deux touches d'un clavier. Enfin, tu vois, c'est genre la musique de la dépression. Enfin, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Moi, je me sens pas... Je fais un peu de création sonore, mais je me sens pas en capacité. Et puis surtout, des fois, t'as des rencontres, justement, entre de l'image et du son, et tu sens que c'est impactant. Et du coup, on lui écrit un message sur Instagram en disant « Bah voilà, là, c'est vraiment pour mettre en place des soins qui sont gratuits, pour parler de ça, etc. » Et en fait, tout de suite, elle a été super cool. Elle a dit « Ok, et pour utiliser cette musique-là. » Et en fait, s'il n'y avait pas eu elle, où il y a eu, tu vois, aussi... En fait, on demande à des gens sur Instagram de republier pour qu'on ait plus de vues, plus de visibilité. Ça a été pareil avec Fatima Ouassak. Elle a partagé ce qu'on a fait. J'étais trop contente. Je l'ai remerciée de ouf. Et en fait, heureusement qu'il y a toutes ces femmes, ou Olympe de G aussi, qui a republié ce qu'on a fait, Over the Rainbow, qui aussi sur Insta. Et en fait, c'est grâce à la sororité. Et c'est pour ça que la Chica, elle m'a dit, on y arrivera ensemble. C'est exactement pour ça qu'on fait ça dans l'espace public pour dire, on y arrivera ensemble. Je vous jure, on y arrivera ensemble. Enfin, l'arbre qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. L'arbre pousse, quoi. L'arbre pousse. À Chica Belleville, c'est l'arbre qui pousse.
Dices que soy ángel. Cuando quemé mi halo, me ves como la miel. Cuando me siento veneno, piensas que tengo alas. Cuando mi hogar es el infierno. Dices que ves mariposas en la luz de mis ojos. Cuando con un solo zarpazo te arruño el alma, dices que me quieres a tu lado. Cuando yo ya me fui sola. Sola.
Vous venez d'entendre Chica Belleville Sola, un choix d'Agnès Gatley, qui est notre invitée pour parler, enfin, qui représente Mon Corps, qui va proposer une performance dans l'espace public ce jeudi 29 à partir de 18h30, place Gralin. C'est bien ça pour les informations pratiques ?
Alors pour celles qui veulent participer, c'est 18h30 et sinon ça va commencer à 19h15. Voilà. L'idée, c'est qu'on fait un gros appel à participantes. Il y a juste deux dress codes. Venir habillé en blanc si vous avez envie de performer et de rentrer avec le groupe de femmes. Venir habillé en noir si vous voulez donner un coup de main, mais pas forcément rentrer dans la performance. Plus on est nombreuses et plus c'est impactant. Et en fait, nous, on va faire en sorte que c'est des jeux à jouer pour celles qui veulent participer. Et en jouant le jeu, ça représente ce qu'une partie, un tableau qu'on peut retrouver dans le parcours d'une personne victime d'agression sexuelle. Par exemple, je vais donner un exemple concret sur la performance qu'on avait fait en novembre. La règle du jeu, c'est il y avait un grand cercle avec une personne au milieu. Ça représentait en fait une personne fonctionnelle, qui a une personne. Donc la personne au milieu, ça représente la personne qui est en représentation sociale, et le cercle autour, c'est elle, avec toutes les parties de sa personnalité, tout ce qui gravite. Et du coup, la règle du jeu, c'était celles qui sont dans le cercle sont en miroir, donc font toutes les mêmes mouvements. Donc ça demande de l'écoute. Et celle qui est au milieu va faire l'opposé. L'opposé en rythme, l'opposé en énergie. Et régulièrement, on change la personne au milieu. La règle, elle est facile. Elle est établie pour celle qui arrive à 18h30 en amont. Après, ça ne sert à rien de le dire trop parce que les femmes, elles réfléchissent à fond. Et c'est des trucs très corporels. Ou alors tout le monde suit la personne à droite, tout le monde suit la personne à gauche. Donc c'est vraiment des règles du jeu qui sont faciles. Par contre, quand on sort et qu'on voit le tableau, ça exprime quelque chose qui est très clair. Par exemple, la dernière fois, on avait aussi des grands bâtons sur lesquels étaient accrochées des robes vides. Et en fait, on les bougeait ensemble. Et du coup, c'était un défilé de robes vides qui représentait toutes les femmes qui étaient en désincarnation, qui étaient touchées par le sujet. Quand tu vois 10 robes vides qui dansent, c'est fort. Quand t'en vois 40 ou 50, c'est impressionnant. C'est pour ça aussi qu'on fait un appel à femmes. Et en fait, l'idée, c'est de venir évidemment offrir son soutien, mais aussi recevoir les bénéfices de la sororité. Mais vraiment, pour les participantes, c'est ça. Pour ceux qui sont dans d'autres genres, parce qu'on me demande souvent aussi, est-ce que vous accueillez des personnes non cisgenres ? Alors, oui. Des femmes non cisgenres, oui. Par contre, des hommes non cisgenres, non. Pas pour l'instant. Par contre, à la fin, on fait toujours deux espaces. Un espace non mixte et un espace mixte qui permet par contre à tout le monde de venir participer.
Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction, attention des passants, du public sur les précédentes? Et notamment, est-ce que vous sentez une curiosité de la part des hommes?
Ah mais oui, en fait déjà, il y a un truc qui est encore plus caché que les femmes victimes d'agressions sexuelles, c'est les hommes victimes d'agressions sexuelles en fait. C'est encore, c'est un autre délire encore, hein. C'est un truc de ouf. C'est en plus super chaud parce que vu qu'ils sont 10% et pas 90%, c'est quoi les références? C'est pour ça que je ne dis pas qu'on fera toujours des sessions exclusivement non mixtes femmes parce que c'est vraiment... on avance. En fait, c'est juste que nous, c'est un dispositif qui n'a qu'un an et demi. Il faut essayer d'être le plus inclusif possible. Donc aussi avec des personnes qui pourraient être malentendantes, malvoyantes, divers types de... J'en sais rien, de... qu'on des enfants qui sont seuls. Donc on essaye vraiment déjà d'être le plus inclusif possible pour le public qu'on a ciblé maintenant, qui sont les femmes. Mais en fait, au fur et à mesure de nos avancées, l'idée, c'est après d'être, de mettre disponibilité pour toutes les victimes d'agressions sexuelles, hommes ou femmes, et des hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, mais surtout enfants, il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on est aussi en recherche de personnes pour compléter l'équipe, en fait. Parce qu'il y a aussi, nous, on a fait ça avec Manon et Sonia parce que ça avait du sens par rapport à nous, notre histoire et notre identité. Mais en fait, si on rencontre et qu'on collabore avec des personnes qui ont un autre vécu, une autre identité et qui sont OK pour donner du temps, de l'énergie sur un dispositif voué aux victimes d'agressions sexuelles, mais on est complètement ouverte au dialogue. Toute personne qui a envie de discuter avec nous, qui fait des choses... Mais viens, on discute. C'est pas du tout fermé. Au contraire. C'est hyper important de pouvoir créer un répertoire des possibles. Les médiatrices, elles ont aussi avec elles 50 000 tracts des structures qui existent à Nantes qui peuvent accompagner les victimes, qui ne sont pas nous. Pour moi, ce qui est important, c'est quand on met ça dans l'espace public, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espace de dialogue et que c'est compliqué. Et en fait, le rôle des médiatrices, c'est aussi de dire, OK, là, c'est pour ça qu'aussi, il faut qu'il y en ait plusieurs. Soit tu veux juste comprendre ce qui se passe. Il y avait aussi un couple qui était là, je me rappelle, la nana, elle avait sa poussette avec son bébé et son mari qui lui frottait l'épaule. Et elle pleurait, 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 pleurait. Il y a une diversité d'histoires qui fait que aussi il y a une diversité de réappropriation corporelle. Donc des fois, ça, tu peux te reconnaître. Des fois, tu peux ne pas te reconnaître. Quand tu te reconnais, c'est la fonction première du théâtre et de la danse, c'est-à-dire que par catharsis, c'est aussi la catharsis réparatrice. C'est-à-dire que tu dis, ah ouais, je me vois dans mon parcours de réappropriation corporelle. Et c'est aussi une valorisation des parcours de réappropriation corporelle. C'est aussi de dire, mais bravo, mais c'est génial. Franchement, je suis désolée que tu n'aies pas eu d'accompagnement. Mais aussi, je reconnais la puissance, le travail, l'attention, la solitude. Je reconnais tout ça. C'est reconnaître. C'est de la reconnaissance dans l'espace public.
Quelque chose de plus global. Moi, j'avais une dernière question. Comment vous faites si... au moment de, enfin, on parlait de la réaction des passants au moment des performances. Est-ce que il y a eu des fois des cas de violence ou des personnes agressives?
Non, pas du tout. Après, on est ultra protectrice. En fait, il y a un cercle de jeu, c'est très à distance. Les performances sont très à distance des gens qui peuvent s'arrêter pour regarder. On met de la sauge, on fait des trucs de sorcière. Enfin, tu vois, mais vraiment, on fait un cercle à la craie. On utilise tous les outils, que ça paraisse un délire chelou ou pas, on s'en fout en fait. Si ça protège, on fait, point. On fait avec des outils qui ont du sens pour nous. Et donc du coup, c'est très protecteur. Et en fait, tu le sens. Et en fait, tu sens aussi qu'on parle de l'amour. On n'est pas dans de la revendication.
La colère.
Ben, la colère, elle a sa place. Je ne sais pas exactement le tableau, mais ça pourrait, en fait, on pourrait très bien exprimer dans le parcours des appropriations le besoin de la colère et aussi le fait pour les femmes d'être exclues de la colère. Genre, OK, tu as le droit à toutes les émotions sauf la colère. Ben non, je ne peux pas, en fait. J'en ai besoin. Donc la colère, elle est saine, elle fait partie. Elle met à distance, elle exclut. Donc il pourrait y avoir, mais... C'est aussi juste valoriser ce qui est déjà là. Et c'est aussi un énorme souhait. En fait, quand on dit, c'est un soutien, venez performer. Parce que tu dis, ouais, ça me touche, etc. C'est super. Et souvent, on me dit, c'est super. Je dis, bah alors, viens maintenant. Mais vraiment. Parce que si tu trouves ça super, mais que tu ne prends pas parti, que tu ne t'appropries pas, et ben du coup, c'est ça qui fait que ça vit. C'est que les gens se l'approprient, c'est qu'ils prennent leur utilité, quoi.
Les infos pratiques pour vous suivre, voilà, s'il y a besoin de contact, de détails, comment on fait?
Alors déjà, tout court, j'ai une question. Il y a un mail qui s'appelle moncorpsfrance@gmail.com. Ça, c'est aussi bien pour s'inscrire sur des choses, pour faire partie du collectif. J'ai envie d'être informée, j'ai envie de participer tout court. Pour la performance, c'est Place Gralin. Jeudi 29 juin, 18h30 si tu veux participer, 19h15 si tu veux regarder et peut-être participer ou pas, tu sais pas, en tout cas voir.
Un temps pour tout, là c'est celui de la performance. Mon corps, vous reviendrez peut-être à l'automne nous parler de l'accompagnement, un dispositif voilà, différent et plus au long cours qui concerne un groupe de femmes. Oui. Merci déjà Agnès Gatlet d'avoir pris ce temps de partage. De réflexion, d'émotion, d'envie, surtout de créer du lien et du mouvement autour de ces agressions.
C'est donc la fin de cette émission qui donnait la parole à Agnès Gatlet, qui fait partie des femmes à l'œuvre derrière Mon Corps, un dispositif et surtout une performance dans l'espace public autour des agressions sexistes et sexuelles. Cette émission Mégaphone est bien sûr à retrouver sur notre site jetfm.fr. Tout de suite, Pensée Locale, le programme Cours de la Frappe, la Fédération Régionale des Piles-la-Loire. Bonne soirée sur Jet.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Là, vous voyez, ça c'est une plantation d'octobre 2020. C'est des cultivars, donc ils sont à peu près tous les
Thomas mêmes. Bernardi, je suis paysan sur la ferme Les Landes Vivantes à Tréfieux, en Loire-Atlantique. À temps plein sur la ferme depuis 2019.
Les Landes Vivantes, c'est... des théiers et pas que.
Il y a 5000 théiers sur la ferme, de différentes variétés. Également des fruits, des myrtilles, des framboises, des cassis, des groseilles. Et puis, c'est une ferme pédagogique donc, qui est ouverte au public, dans le cadre de visites, dans le cadre d'ateliers, et peut-être aussi d'événements bientôt. Parce que justement, le cœur du projet, c'est d'ouvrir les portes de la ferme, de donner envie aussi aux gens de s'intéresser à ce que c'est ce métier. Et puis de donner envie aux gens de mettre les mains dans la terre, de renouer avec ça, dans la mesure du possible. Donc voilà, ça s'explique la diversité de la ferme, et puis le thé, c'est quand même un pari, un petit peu fou, donc difficile pour moi, quand je me suis lancé, de tout mettre dans le même panier. Les fruits, ça reste quand même une culture plus classique, c'est pour diversifier. Puis les petits fruits, c'était quand même aussi... la volonté de faire des fruits déshydratés pour proposer des confiseries, entre guillemets, qui soient agréables et en même temps bonnes pour la santé, quoi.
Il y en a 200 en bas, puis là, je vais replanter après tout ça.
Pourquoi le thé, en fait ? Gros buveur de thé, d'où ça vient ?
Pas gros buveur de thé à la base. Plutôt m'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait produire ici. Qui a un impact direct sur notre consommation énergétique, par exemple, et qui pourrait éventuellement être localisé ici, quoi. Donc j'ai un peu réfléchi à différentes choses. Et puis à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, en 2017, j'ai rien trouvé, très peu sur le sujet. Il y avait, et il y a toujours, Denis Mazerol et sa compagne Waizé, basée à Languidic dans le Morbihan, qui avait déjà expérimenté sur le sujet, qui se sont lancés. D'autres personnes aussi, mais qui étaient moins dans la communication. Donc j'étais un petit peu perdu dans ce sujet-là, mais j'avais envie, je me suis dit que c'était intéressant, et puis j'ai vite découvert que le théier, c'est un camélia, et le camélia, eh bien, c'est un peu la fleur emblématique, la plante emblématique de Nantes. La plante a été acclimatée à Nantes il y a 200 ans, donc je me suis dit le camélia se plaît dans le coin, donc son cousin, le camélia de Chine, avec lequel on fait le thé, se plaira sûrement en Bretagne. Il y avait cette volonté de faire un thé local, qu'on puisse aussi avoir une ferme ouverte, c'est de venir voir les théiers dont on peut boire le thé. Et aussi de proposer du thé avec une grande fraîcheur, parce que le thé vert, on le sait peut-être pas, mais un thé vert, c'est un thé qui se consomme assez rapidement. C'est un thé primeur, quoi. Bon, moi, je me concentre sur ce qu'on appelle le thé noir en France, mais c'est pareil, on a des parfums qui sont présents. Voilà, proposer un thé qui a été fait la semaine passée à quelqu'un, c'est plutôt chouette. Et on est évidemment sur un impact énergétique moindre. Mais il faut quand même considérer que le thé, c'est une tradition multiséculaire. Donc il faut rester humble sur la qualité de ce qu'on produit et le savoir-faire qu'on peut avoir ici.
Depuis 2019, temps plein sur la ferme. Aujourd'hui, est-ce que tu en vis ?
Non, clairement non. J'en vis pas. Il y a eu des déboires, notamment parce que quand j'ai démarré, il n'y avait absolument aucune documentation sur le thé en France. Au début, on veut planter du thé, mais on ne sait même pas où trouver des plantes théiers. Donc voilà. J'ai perdu 1000 théiers la première année. Et puis sur les fruitiers, cette année, ça a été, mais les deux années précédentes, on a eu des gelées tardives qui m'ont grillé quasiment toutes les fleurs de fruits. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des arbustes, donc ça met tout le temps du temps à la mise en production. Donc non, j'en vis pas aujourd'hui. Ceci dit, pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier agriculteur, paysan ou dans le thé, j'encourage un maximum de gens à le faire, parce que c'est nécessaire qu'il y ait des petites fermes. Et puis, c'est un travail pleinement épanouissant, même si c'est dur. C'est surtout dur de s'installer, mais on peut se faire aider. Il faut se lancer. Et puis, moi, je suis prêt à aider à ma hauteur sur des conseils ou quoi, ou pour l'installation aussi. Ça, c'est un truc auquel je tiens.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage Sun de Cécile Roland.